tous les meubles, jusqu'à des albums de dessins, jusqu'à des corbeilles de tapisseries. Puisqu'on était victorieux, ne fallait-il pas s'amuser? La canaille s'affubla ironiquement de dentelles et de cachemire. Des crépines d'or s'enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à plumes d'autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice. Les uns dansaient, d'autres buvaient. Dans la chambre de la reine, une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade. Derrière un paravent, deux amateurs jouaient aux cartes. Hussonnet montra à Frédéric un individu qui fumait son brûle-gueule accoudé sur un balcon. Et le délire redoublait au tintamarre continu des porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient, en rebondissant, comme des lames d'harmonica. Puis la fureur s'assombrit. Une curiosité obscène fit fouiller tous les cabinets, tous les recoins, ouvrir tous les tiroirs. Des galériens enfoncèrent leurs bras dans la couche des princesses et se roulaient dessus par consolation de ne pouvoir les violer. D'autres, à figure plus sinistre, erraient silencieusement, cherchant à voler quelque chose. Mais la multitude était trop nombreuse. Par les baies des portes, on apercevait dans l'enfilade des appartements que la sombre masse du peuple entre les dorures, sous un nuage de poussière. Toutes les poitrines haletaient. La chaleur de plus en plus devenait suffocante. Les deux amis, craignant d'être étouffés, sortirent. Dans l'antichambre, debout sur un tas de vêtements, se tenait une fille publique, en statue de la liberté immobile, les yeux grands ouverts, effrayante. Ils avaient fait trois pas dehors, quand un peloton de gardes municipaux en capote s'avança vers eux et qui, retirant leur bonnet de police et découvrant à la fois leur crâne un peu chauve, saluèrent le peuple très bas. À ce témoignage de respect, les vainqueurs déguenillés se rengorgèrent. Hussonnet et Frédéric ne furent pas non plus sans en éprouver un certain plaisir. Une ardeur les animait. Ils s'en retournèrent au palais royal. Devant la rue Fromenteau, des cadavres de soldats étaient entassés sur de la paille. Ils passèrent auprès impassiblement, étant même fiers de sentir qu'ils faisaient bonne contenance. Le palais regorgeait de monde. Dans la cour intérieure, sept bûchers flambaient. On lançait par les fenêtres des pianos, des commodes et des pendules. Des pompes à incendie crachaient de l'eau jusqu'au toit. Des chenapans tâchaient de couper des tuyaux avec leurs sabres. Frédéric engagea un polytechnicien à s'interposer. Le polytechnicien ne comprit pas, semblait imbécile d'ailleurs. Tout autour, dans les deux galeries, la populace, maîtresse des caves, se livrait à une horrible godaille. Le vin coulait en ruisseaux, mouillait les pieds, les voyous buvaient dans des culs de bouteille et vociféraient en titubant. « Sortons de là, » dit Hussonnet, « ce peuple me dégoûte. » Tout le long de la galerie d'Orléans, des blessés gisaient par terre sur des matelas, ayant pour couverture des rideaux de pourpre, et de petites bourgeoises du quartier leur apportaient des bouillons, du linge. « N'importe, » dit Frédéric, « moi, je trouve le peuple sublime. » Le grand vestibule était rempli par un tourbillon de gens furieux. Des hommes voulaient monter aux étages supérieurs pour achever de détruire tout. Des gardes nationaux sur les marches s'efforçaient de les retenir. Le plus intrépide était un chasseur, nu-tête, la chevelure hérissée, les buffles triés en pièces. Sa chemise faisait un bourrelet entre son pantalon et son habit, et elle se débattait au milieu des autres avec acharnement. Hussonnet, qui avait la vue perçante, reconnut de loin Arnoux. Puis, ils gagnèrent le jardin des Tuileries, pour respirer plus à l'aise. Ils s'assirent sur un banc, et ils restèrent pendant quelques minutes, les paupières closes, tellement étourdis qu'ils n'avaient pas la force de parler. Les passants autour d'eux s'abordaient. La duchesse d'Orléans était nommée régente, tout était fini, et on éprouvait cette sorte de bien-être qui suit les dénouements rapides, quand à chacune des mansardes du château parurent des domestiques déchirant leurs habits de livrée. Ils le jetaient dans le jardin en signe d'abjuration. Le peuple les hua, ils se retirèrent. L'attention de Frédéric et d'Hussonnet fut distraite par un grand gaillard qui marchait vivement entre les arbres, avec un fusil sur l'épaule. Une cartouchière lui serrait à la taille sa vareuse rouge. Un mouchoir s'enroulait à son front sous sa casquette. Il tourna la tête, c'était Dussardier, et se jetant dans leurs bras. « Ah, quel bonheur, mes pauvres vieux !» sans pouvoir dire autre chose, tant il haletait de joie et de fatigue. Depuis 48 heures, il était debout. Il avait travaillé aux barricades du quartier latin, s'était battu rue Rambuteau, avait sauvé 3 dragons, était entré aux Tuileries avec la colonne du Noyer, s'était porté ensuite à la chambre, puis à l'hôtel de ville. « J'en arrive, tout va bien, le peuple triomphe, les ouvriers et les bourgeois s'embrassent. Ah, si vous saviez ce que j'ai vu, quels braves gens, comme c'est beau !» et sans s'apercevoir qu'il n'avait pas d'armes. « J'étais bien sûr de vous trouver là. Ça a été rude un moment, n'importe. » Une goutte de sang lui coulait sur la joue et aux questions des deux autres. « Oh rien, les raflures d'une baïonnette. Il faudrait vous soigner pourtant. »« Bah, je suis solide. Qu'est-ce que ça fait ?»« La République est proclamée. On sera heureux maintenant. » Des journalistes qui causaient tout à l'heure devant moi disaient qu'on va affranchir la Pologne et l'Italie. Plus de roi, comprenez-vous ? Toute la terre libre, toute la terre libre ! Et embrassant l'horizon d'un seul regard, il écarta les bras, dans une attitude triomphante. Mais une longue file d'hommes courait sur la terrasse au bord de l'eau. « Ah, saprelotte, j'oubliais ! Les forts sont occupés, il faut que j'y aille. Adieu !» Il se retourna pour leur crier, tout en brandissant son fusil. « Vive la République !» Des cheminées du château, il s'échappait d'énormes tourbillons de fumée noire qui emportaient des étincelles. La sonnerie des cloches faisait au loin comme des bêlements effarés. De droite et de gauche, partout, les vainqueurs déchargeaient leurs armes. Frédéric, bien qu'il ne fût pas guerrier, sentit bondir son sang gaulois. Le magnétisme des foules enthousiastes l'avait pris. Il humait voluptueusement l'air orageux, plein des senteurs de la poudre, et cependant, il frissonnait sous les effluves d'un immense amour, d'un attendrissement suprême et universel, comme si le cœur de l'humanité tout entière avait battu dans sa poitrine. Husson est dit en bâillant. « Il serait temps, peut-être, d'aller instruire les populations. » Frédéric le suivit à son bureau de correspondance, place de la Bourse. Il se mit à composer pour le journal de Troyes un compte-rendu des événements en style lyrique, un véritable morceau qu'il signa. Puis, ils dînèrent ensemble dans une taverne. Hussonnet était pensif. Les excentricités de la Révolution dépassaient les siennes. Après le café, quand ils se rendirent à l'hôtel de ville, pour savoir du nouveau, son naturel gamin avait repris le dessus. Il escaladait les barricades comme un chamois et répondait aux sentinelles des gaudrioles patriotiques. Ils entendirent, à la lueur des torches, proclamer le gouvernement provisoire. Enfin, à minuit, Frédéric, brisé de fatigue, regagna sa maison. « Eh bien, dit-il à son domestique, en train de le déshabiller, es-tu content ?»« Oui, sans doute, monsieur. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce peuple en cadence. » Le lendemain, à son réveil, Frédéric pensa à Deslauriers. Il courut chez lui. L'avocat venait de partir, étant nommé commissaire de province. Dans la soirée de la veille, il était parvenu jusqu'à Ledru-Rollin et l'obsédant au nom des écoles en avait arraché une place, une mission. Du reste, disait le portier, il devait écrire la semaine prochaine pour donner son adresse. Après quoi, Frédéric s'en alla voir la maréchale. Elle le reçut aigrement, car elle lui en voulait de son abandon. Sa rancune s'évanouit sous des